Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
11h07 de retour dans les grandes gueules du sport, votre émission le samedi, le dimanche de 9h à midi. Merci de nous écouter en direct. Merci également de nous écouter en podcast. Cette émission fait un carton. Vous allez sur les différentes applications. Sachez que les deux premières heures sont déjà en ligne. On a parlé de Sinner, on a parlé du Paris FC avec Pierre Ferracci, le président du Paris FC qui monte en Ligue 1, qui était notre invité exceptionnel. On a parlé de la Ligue 1, de UBB Toulouse. Bref. Tranquillement cet après-midi en podcast. Encore de nombreux débats à évoquer avec Christophe Cessieux, Fred Le Canu, Julien Beneteau, Denis Charvet. On va parler d'Alcaraz dans quelques instants. 11h30, la rentrée de Léon Marchand en Grand Bassin. Cette semaine, le prodige français qui se lance de nouveaux défis car il a peur de s'ennuyer. Est-ce qu'il va avoir une longue carrière, Léon Marchand, se posera la question. Et puis 11h45, les GG contre-attaque. On a bousculé un petit peu notre programme en raison de la présence de Pierre Ferracci ce matin. Vous avez quelques secondes pour nous vendre votre débat. De quoi vous voulez parler, Christophe Cessieux?
Moi, j'ai envie de vous parler de Florentino Pérez, président du Real Madrid, qui est un personnage emblématique du football européen. Mais je trouve que ce monsieur est en train de se déshonorer son club. Il agit un peu comme un certain Donald Trump. Et j'ai envie de faire une petite comparaison entre les deux. Vous verrez, il y a des choses.
C'est la politique, c'est l'édito politique.
C'est la politique populiste qui veut gagner.
Il sait attraper les auditeurs. Bravo, Christophe.
C'est un pas, c'est affreux.
Magnifique teasing. En tout cas, vous allez sur le compte X des grandes gueules du sport si vous voulez voter pour Christophe Cessieux.
Les grandes gueules du sport, c'est pas les grandes gueules de Marshall.
Les grandes gueules de tout. On embrasse Olivier Marshall et Alain Touchot.
Olivier Marshall.
C'est l'inverse, c'est fait exprès, les copains. C'est la boutade.
Bon,
voilà. Ah oui, c'est à toi, Julien Beneteau. Vends-nous ton débat.
Alors, c'est un supporter de l'OM qui vous parle.
Ouais.
L'OM, hier, a fêté ses 125 ans. L'OM, en 125 ans, c'est 9 titres de champion de France et 10 Coupes de France dans les dernières en 89. Alors oui, il y a la Ligue des Champions en 93 qui vient sublimer le tout. Mais est-ce que vous trouvez que le palmarès de l'OM en 125 ans est à la hauteur de son aura?
C'est un Marseillais qui dit ça.
Moi, je crois.
Il va être défroqué à Marseille.
Tous les clubs légendaires des autres pays, ils ont 15-20 titres de champion.
Ok, garde-en sous la pédale parce que j'aime beaucoup ton débat.
Ah, merci. Mais je vais pas gagner.
Mais il sera pas gagné.
Bravo, en tout cas.
Tu peux gagner avec
Trump.
Marseille, c'est très, très, très populiste
qui va gagner. Oui.
Fred Le Canu.
Moi, je voudrais revenir sur la 75e minute de ce Inter-Barça. Mkhitaryan, l'Arménien, qui marque et puis la VAR qui, pour 2 cm, donc désavoue ce but. Une VAR qui n'a pas permis forcément de faire la différence entre un carton rouge et un carton jaune dans d'autres situations. Donc mon débat, c'est bien sûr, et je vois que Denis est très envie, c'est est-ce que la VAR dénature le sens du jeu?
Ouais, mais ça m'a fait choquer.
On critique pas les débats de
Denis. Denis, je sens que tu critiques, mais les gens ont besoin de parler. Denis, tu ne pourras pas
dénaturer le sens des contre-attaques. Regardez ça, aujourd'hui, pour gagner, tout le monde propose des contre-attaques foot.
Quand je vois l'opposition des copains, j'ai aucun doute sur la qualité de ma question.
On a tous vu la prestation stratosphérique de Yamal. On s'est régalé. On a découvert, pour le grand public, a découvert un prodige, un Messi. Il a découvert un Neymar, un Messi. Mais est-ce qu'on a le droit aujourd'hui de le comparer déjà à Messi?
Ok.
Voilà.
Quatre propositions.
C'est pas populiste, ça, tiens.
Non. Les 3e et 4e, déjà.
Allez, sur le compte X des grandes gueules du sport, on en parle à 11h45. On va débuter cette nouvelle heure avec cette citation de John McEnroe qui a dit un jour: si vous gagnez sans progresser, vous ne serez jamais un champion.
Les grandes gueules du sport passent la seconde.
6-4 pour Carlos Alcaraz. Il vient de se créer sa 4e balle de match sur une merveille d'amorti.
Well, first of all, I want to congratulate Carlito. Right now, you are the best player in the world.
J'aimerais dire bravo à Carlos. Je pense que maintenant, tu es le meilleur joueur du monde.
Deuxième balle de service. Et dedans, sur le regard de Govi, filet. C'est gagné. C'est gagné pour Carlos Alcaraz. À l'issue du final parfaitement maîtrisé.
Il a très bien tenu ses nerfs. Pour quelqu'un de son âge, jouer avec une telle maturité et un tel courage, c'est vraiment impressionnant.
Il monte, c'est fini. Attaque gagnante. Carlos Alcaraz remporte son premier Wimbledon.
Carlos n'a pas encore 23 ans. Nous devons nous rappeler de son âge et ce qu'il a déjà fait à son âge. Ce n'est pas quelque chose de normal.
Oh, les belles, c'est fini. C'est fini. Carlos Alcaraz remporte son premier Roland
Roland-Garros, victoire en 5-7, victoire époustouflante, match de légende sur le Châtrier. Et bravo Carlito.
L'Espagnol Carlos Alcaraz.
Ah, il était fatigué, Eric. Hein. Le 15e jour, match de légende.
Oui, je sais pas qui commentait, mais il était bon. Il a déjà son documentaire sur Netflix. Pas Eric Salio, évidemment. À seulement 21 ans.
Quoique. Ce sera intéressant.
Tout est déjà dans le titre, d'ailleurs. Carlos Alcaraz, à mi manera. Comprenez, Carlos Alcaraz, à ma manière et sa manière pour devenir un champion, interroge justement jusqu'à ses plus proches, à commencer par son coach, Juan Carlos Ferrero, qui doute de son poulain, qui doute de sa capacité à devenir une légende de son sport. Pourtant, l'Espagnol compte déjà 4 grands chelems à 21 ans. Il est en avance sur les 3 fantastiques au même âge. Nadal en avait 3, Djokovic en avait 1 et Federer en avait 0. La musique qui fout les jetons est cette question. Il est en avance. Mais un champion peut-il renoncer à écrire l'histoire? Oui ou non? Christophe Cessieux.
Bien sûr que oui.
Denis Charvet.
Bien sûr que non.
Julien Beneteau.
Eh oui, Denis l'a bien fait.
Tu veux qu'on parle de toi?
Fred Le Canu.
Oui.
C'est oui. J'ai un nom et je sens que cette question te prend aux tripes, mon cher Denis, donc tu vas pouvoir réagir avant de débattre. On va retrouver notre spécialiste tennis qui n'a pas son documentaire sur Netflix, mais c'est pas très grave, c'est Eric Salio. Salut Eric.
Salut les grandes gueules de légende.
Et ce que vous allez entendre est extrêmement intéressant parce que, Eric, il y a comme un doute sur l'envie de Carlos Alcaraz.
Oui, peut-être parce que cette gloire lui est tombée dessus très tôt. Trop tôt, mais avec le CV qui est le sien, il ne peut plus reculer. Il doit viser encore plus haut. C'est ce qu'il affirme avec des réserves.
Mon rêve, c'est d'être l'un des meilleurs de l'histoire. Oui, je veux m'asseoir à la même table que Nadal, Djokovic et Federer. Est-ce que je suis dans un état d'esprit de faire face à tout et de faire tout ce qu'il faut pour y arriver? Pour l'instant, je ne sais pas. Je suis encore jeune, il me reste beaucoup à vivre. Mais d'après ce que j'ai vécu, je préfère être heureux plutôt que de connaître un grand succès.
Dans ce documentaire, on le voit profiter de la vie, dévorer les bons petits plats de sa maman. Juan Carlos Ferrero, qu'on peut dire, c'est son deuxième papa, sait qu'il a découvert et formé une pépite, mais l'ancien numéro mondial connaît les exigences du circuit, toutes les contraintes qui à la longue vous usent, et il a ces phrases lourdes de sens. Pour être le meilleur, tu dois être un esclave de ton sport. Il a une façon tellement différente d'appréhender le travail et le sacrifice que j'en arrive à douter qu'il puisse réellement devenir le meilleur joueur de l'histoire. Ferrero a lâché cette sentence sciemment, peut-être pour faire réagir son élève. Mais que dire de la pique de Roberto Bautista Agut, lâché lors du Masters 1000 de Madrid?
Le tennis au plus haut niveau demande beaucoup de sacrifices. Carlos ne gagnera pas de grand chelem en se couchant à 7h du matin. Pour l'instant, tout va bien, il est jeune et tout roule. Mais s'il veut atteindre le niveau des 3 cracks du passé, il faudra qu'il joue 15 ans. C'est un joueur et une personne intelligente et petit à petit, il va se rendre compte des choses à mettre en place pour durer au plus haut niveau et finira par les appliquer.
Visiblement, le vétéran espagnol sait des choses sur la vie hors circuit de Carlitos. Pour atteindre tous ses records, Novak Djokovic utilisait souvent en anglais le mot « dedicated ». Comprendre qu'il vivait pour le tennis 24 heures sur 24. Il menait quasiment une vie d'asset, pesant ses aliments au gramme près. Carlos Alcaraz entend laisser une trace à sa manière, peut-être avec le moins de contraintes possible. Hasard ou coïncidence, il n'est plus numéro mondial depuis le 11 septembre 2023.
Un champion peut-il renoncer à écrire l'histoire? C'est notre débat, le 32-16, le hashtag RMC Live, l'application RMC Direct Studio. Débat que je trouve passionnant. Les amis, vous pouvez nous contacter et réagir aussi avec des sportifs de haut niveau. Toi, Christophe, tu as aussi suivi la carrière de nombreux athlètes. Un champion peut-il renoncer à écrire l'histoire? C'est non pour toi, Denis. Pourquoi non?
D'abord, il a tout dit quand il a dit je vais m'asseoir à la table des plus grands,
mais,
et Nadal.
Mais sans faire les sacrifices.
Les sacrifices, ils viennent avec le temps. Et puis, il est très jeune. Il faut se remettre dans la tête d'un gamin qui a 21 ans. C'est-à-dire que c'est pas un adulte, c'est pas un mec qui est mature. Forcément, et qui crie en pleine crise d'adolescence. Et avec les réseaux sociaux, avec la vie que mènent les ados aujourd'hui, ça a changé. Le monde a changé pour cette catégorie de gens de 20 ans. Il y a 20 ans, il n'y avait pas les réseaux sociaux comme il y a aujourd'hui. Il n'y avait pas la même occupation, le même divertissement. Aujourd'hui, il me regarde pas.
Il n'y avait pas le même divertissement il y a 20 ans?
Non, pas forcément.
Mais tu n'avais pas envie de faire la fête comme aujourd'hui, quand tu avais 20 ans? Toi, quand tu avais 20 ans, tu n'avais pas envie de faire la fête?
Mais je te parle
envie de sacrifier de temps en temps un samedi soir.
Je te parle pas de
pour
toi.
Aller voir les filles ou pour aller boire des coups avec les copains.
Non, mais je comprends pas.
Je te parle de toi, sportif de haut niveau.
Mais quand il fallait faire un sacrifice, je les faisais, mais évidemment oui, que.
Mais pas
il
parle toujours, toujours.
Non, mais c'est comment il s'appelle son entraîneur qui dit parle de sacrifice, mais sacrifice, tous les sports, on me demande du sacrifice, c'est pas que le propre tennis quand même.
Oui, mais est-ce que tu comprends ce que dit Alcaraz? Est-ce que tu l'entends? Que lui, il a pas forcément envie de tout faire pour y arriver.
Bien sûr que je l'entends. Mais je l'entends, mais il sera rattrapé par son histoire. Moi, j'y crois pas une seconde qu'il va laisser filer sa carrière, ses objectifs. Ce mec, il est trop dans la compétition. Il est trop compétiteur pour laisser ta. Je pense que c'est une question.
Il est joueur, peut-être pas compétiteur.
Oui, mais enfin, quand t'as gagné 4 grands chelems, t'es compétiteur. Je suis désolé. Excuse-moi, mais je vois pas comment tu peux pas être compétiteur.
Il les a gagnés parce qu'il a sacrifié son adolescence, parce qu'il
mais
a
tous les grands joueurs, tous les grands champions.
Mais bien sûr. Mais après, aujourd'hui, est-ce que quand t'as 20 ans, que t'as pas eu d'adolescence, que t'as pas pu faire ce que tu voulais, est-ce que t'as envie de continuer jusqu'à 38
ans? Mais Nadal l'a vécu aussi, ça.
Mais bien sûr, il est d'une génération différente. Et ça,
c'est la génération.
Je pense
différente.
Que c'est générationnel et que aujourd'hui, et pas seulement dans le sport, les jeunes n'ont pas envie de mettre en avant leur carrière avant tout. Je pense qu'ils ont envie de vivre leur vie. Et ce mec-là, il a 21 ans, il est milliardaire, il a pas eu d'adolescence. Et ben peut-être
mais
qu'il aura envie de. Sans doute, peut-être dans 2-3 ans. Mais laissez-le respirer. Je pense que la grosse erreur, c'est ses coachs qui la font. En lui mettant une pression comme ça, ils ne vont réussir qu'une chose à faire, c'est le mettre en burning out et le dégoûter du tennis. Comme d'autres en natation ont réussi à le faire. On parlera tout à l'heure des longs marchands, c'est la même chose. Laissez-les respirer. Ces mecs ont 20 ans, ils ont envie d'avoir une vie comme tous les jeunes de leur âge. Sauf qu'en plus, ils sont milliardaires, quoi. Donc,
Fred Le Cannier.
Ouais, je partage pas cette histoire générationnelle. Moi, je crois plutôt que c'est la différence fondamentale entre l'envie et le besoin. C'est-à-dire que quand t'as envie de quelque chose, tu vois, c'est basé sur les émotions, t'as envie, ok. Mais le besoin, tu vois, c'est cette base que t'as de manière vraiment intrinsèque qui t'amène à faire des choses. Et lui, de quoi il a besoin? Et quand on parle de sacrifice, tu peux pas mesurer un sacrifice. Au développé couché, tu peux compter le nombre de kilos. Mais la notion de souffrance sur le sacrifice, c'est très personnel. Donc lui, aujourd'hui, c'est un garçon qui a quand même une grande carrière, qui a déjà gagné des choses, et il sait tous les efforts qu'il doit faire pour continuer cette dimension-là. Et il en a peut-être pas besoin.
Mais il a gagné, c'est ça le problème.
Oui, il a gagné, sauf qu'il doit rien à personne à part à lui-même. Donc aujourd'hui, quand on dit oui, il faut qu'il soit...
Toi, t'as répondu quoi à la question? Parce que là, tu donnes des arguments, comme quoi tu dis, il a le droit de pas écrire l'histoire.
Moi, c'est ce que je dis. Je dis oui.
Ah ok,
oui, je dis oui.
Non, moi, je suis toi qui dis non.
Moi, je suis dans le camp de Denis, sauf là. D'habitude, je suis toujours avec Denis, mais là, je peux pas le suivre.
Mais ouais.
Non, mais tu vois ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, comment tu peux mesurer la souffrance
chez toi. Mais bon,
ce que je veux dire, c'est que tu vois, à un moment donné, on peut pas répondre à la place du gars. Et quand on dit ouais, il faut qu'il fasse attention à son hygiène de vie, tu sais pas tout ce que ça lui coûte déjà d'être à ce niveau-là. Donc les sacrifices, ça veut rien dire. C'est une décision. Et lui, c'est très bien ce que ça implique. Ben oui,
c'est une décision.
Ça veut dire que la décision de ne pas être le plus grand, c'est dans le regard des autres et des gens, parce que ce qu'on lui demande, peut-être qu'il peut pas le faire.
T'y crois une seconde avec Alcaraz, quand tu vois le mec que moi je l'ai vu jouer, je vois le mec à l'extérieur, je crois pas une seconde que le mec.
Tu l'as dit, on l'a dit tout à l'heure, champion, compétiteur, c'est pas la même chose. Joueur, c'est pas la même chose. Avoir du talent, c'est pas la même chose que de dédier sa vie à la performance.
Je crois qu'il est capable d'avoir la même carrière que Djokovic pour arriver au même nombre de.
Justement, la tâche est trop grande, c'est ce que je t'ai entendu dire.
Bien sûr. En fait, Nadal, Federer et Djokovic, ils ont écrit l'histoire du jeu ensemble, mais Federer et Nadal d'abord, entre guillemets, ils avaient Sampras en ligne de mire, 14 grands chelems. Federer, quand il commence à gagner, quand il est à son prime, déjà il sait que chaque année, il en a un. Ah oui, mais il était injouable pendant 5-6 ans de suite. Nadal, c'était l'inverse, il était injouable à Roland. Donc il savait, au départ du 1, il savait qu'ils avaient déjà un grand chelem par année, les mecs. Et après, ils se les ont bouffés entre eux et ça leur a permis de se dépasser. Et une fois qu'ils avaient dépassé Sampras et gagné tous les trois les 4 ou 6 grands chelems sur les 4 surfaces différentes, là ils sont rentrés dans l'histoire ensemble et ils se sont tirés à la bourre. Alcaraz, il dit je veux m'asseoir à leur table. Donc ça veut dire qu'il faut qu'il ait minimum 20 grands chelems. Et s'il veut rattraper Djokovic, ça veut dire qu'il en faut 24. Il en a 4. Ça veut dire que pendant 10 ans, il faut qu'il en prenne 2 par an. Et si Alcaraz, quand il se dit ça, il se dit ok, c'est trop dur. Et si je fais, qu'est-ce que ça va me demander? Je suis loin d'être sûr d'y arriver. Et que la relation besoin-envie qu'est-ce que ça va me coûter dans ma vie? Je suis milliardaire.
Millionnaire pour l'instant.
Est-ce que j'en ai besoin? Ben, il a, moi, pour moi, il a le droit de se dire, je vais continuer de faire ce que je fais. Je vais en prendre quelques-uns. On va voir où ça va me mener. Mais peut-être que je ferai pas tout pour m'asseoir.
Et peut-être que j'en gagnerai que 10, mais déjà 10, c'est absolument exceptionnel.
S'il gagne l'Open Australie, il rentre dans l'histoire, parce qu'ils sont pas tant que ça à avoir gagné les 4, déjà. Il dépasse des mecs comme Lendl, Sampras, Edberg et compagnie qui n'ont jamais réussi. Et voilà.
Je trouve que c'est le point essentiel de ce débat. Parce que quand on se dit, est-ce qu'un champion peut renoncer à écrire l'histoire, c'est que quand il voit le chemin à accomplir, quand il est doué, quand il est en avance sur tous les autres, je vous ai dit qu'il avait déjà 4 grands chelems à 21 ans, ce que personne n'a réussi à faire. L'immensité du travail. Tu me parlais, on discutait en off, Julien Beneteau, tu disais, s'il veut déjà égaler Nadal, il faut que jusqu'en 2035, il ne perde pas un match à Roland-Garros. Déjà juste ça. Quand Nadal commence en 2005 sa quête, il a Borg qu'à 6 Roland-Garros. Ce qui était énorme à l'époque, mais ce qui aujourd'hui nous paraît un peu ridicule, même si je le mets entre des gros guillemets.
Bien sûr.
Il y avait Pete Sampras qui était à 14, qui n'était pas à 24. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu te dis, mais...
La question, c'est renoncer à
faire l'histoire des autres. Parce que la sienne, il la fera toujours. Là, ce qu'il renonce, c'est la projection d'aller dans un truc optimal qui va peut-être lui coûter trop de sacrifices à lui.
Oui, il le sait, ça. Mais c'est déjà une incapacité, en fait.
Moi, je pense que c'est la capacité physique avant tout. Parce qu'après, l'adversité, elle est moins forte qu'avant. Hein. Je suis désolé.
Oui.
Donc, il a plus un boulevard aujourd'hui que par le passé.
Bien sûr.
Ben oui. Donc,
c'est mental.
C'est pas mental, oui, bien sûr, c'est psychologique parce qu'il faut avoir mental pour faire
Mais le problème, c'est qu'il il est pas régulier sur l'année, donc c'est pour ça qu'il est plus numéro un mondial. Au-delà de ses pépins physiques de temps en temps, etc. Mais parce que de temps en temps, il a un peu des trous par rapport à un Sinner ces derniers temps. Mais sur les grands chelems purs et durs, effectivement,
il a moins d'adversité.
T'as l'impression que s'il s'y met.
Ben oui.
Il est en il est en finale et il peut gagner partout.
Mais c'est quoi le courage?
Il peut gagner partout.
Le courage, c'est mettre de l'énergie sur ses projets. C'est quoi son projet?
D'un côté, il dit
je vais être le plus grand, et de l'autre côté, il dit ah ouais, mais en même temps, j'ai réfléchi à ce qu'il faut mettre en place pour être le plus grand. C'est pas évident. Là, il sait pas.
Le désir, c'est qu'il veut les rattraper, mais de après, il voit la montagne.
Les autres, ils ont banalisé. Tu parlais de Borg, c'est 6 Roland, 5 Wim, 11 grands chelem. À une époque, de pouvoir faire les deux, c'était, on se disait, mais en plus, le gazon était différent, on se disait, mais c'est incroyable. C'est 6 Roland de suite, en plus, je crois, Borg.
Et il arrête à 26 ans.
On se dit, mais c'est incroyable.
Mais il peut faire une carrière à la Borg, Alcaraz.
Mais il a 11 grands chelems. Les autres, ils en ont le double. Ils ont le double de Borg, Nadal et Djokovic. Donc, et en fait, les mecs ont mis des repères.
Tellement haut.
Tellement, c'est n'importe quoi. 8 Wimbledon Federer, 9 Open d'Australie Djokovic, 14 Roland Nadal. C'est n'importe quoi.
Mais est-ce que tu débutes. Moi, je suis pas sportif de haut niveau, mais quand tu es sportif de haut niveau, quand tu débutes ta carrière,
tu veux gagner Roland Garros.
Je vais être le GOAT.
Je veux gagner Wimbledon, ou je veux gagner Roland Garros, ou je veux être numéro 1 mondial. Tu vois, c'est les 2-3 trucs qui te.
Je te rassure, quand t'arrives à l'INSEP avec David Douillet, tu pensais pas toi de Paris, tu pensais à survivre. Hein. Chacun ses objectifs. Quand t'es jeune à l'INSEP à 17 ans, David Douillet est athlète, je peux dire que tu penses pas au Paris.
Ça rejoint notre débat. C'est-à-dire que t'aurais totalement pu avoir les capacités de détrôner un David Douillet, mais est-ce qu'à un moment donné, tu dis en fait la tâche, elle est trop grande? Tu vois, c'est pour ça que tu as le droit de renoncer.
Tu sais, quand tu gagnes, que tu rejoins l'histoire, en fait. Parce que tu te mets dans l'histoire, en fait. Tu gagnes un tournoi,
donc
tout le monde
fait
la mesure. Mais moi, je voudrais répondre à Eric, parce qu'il dit à 26 ans, Alcaraz peut arrêter à 26 ans. Ouais. Mais s'il gagne, si à 26 ans, il s'arrête comme Borg et qu'il est 11 Grand Chelem, c'est énorme.
Ouais, bien sûr.
Non, mais je veux dire. On sera obligé quand même de
le comparer.
Dans le comparatif. Regarde le docu et tu comprendras beaucoup de choses, parce que c'est un garçon qui est, vous l'avez dit, qui est pas encore mûr, il a encore son petit lit d'ado dans la chambre de ses parents, ce qu'il adore, c'est le repas de famille, c'est la scène après Roland Garros l'an passé où il vient voir Ferro, il dit, faut que je parte 3 jours à Ibiza. Attends, t'as le Queen, ça préparait. Non, j'ai besoin de partir 3 jours à Ibiza. Et pendant 3 jours, c'est waouh, c'est la fête. C'est la différence. Voilà, mais il en avait besoin.
Et c'est la différence entre Nadal et Alcaraz.
Voilà.
Parce qu'à l'époque, à l'époque, le Queens était collé à Roland-Garros.
Le lendemain, tu devais être, le lendemain, ouais, tu devais être à Londres.
Moi, le jour de la finale de Roland-Garros, en 2006, ça doit être, ou 7, je suis au Queens le dimanche. Le lundi.
Le jour de la finale.
Le jour de la finale de Roland. Le lundi, Nadal gagne. Ça doit être son troisième ou quatrième truc. Je le vois à l'hôtel. Et je lui dis, putain, ça va? Mais comme ça. Et là, il me dit, il me répond avec sa, comment dire, sa gentillesse et sa modestie légendaire. Genre, bah oui, ça va, ça peut que aller. Je viens de gagner. Il me dit pas, je viens de gagner de Roland Garros, c'est ce que ça voulait dire. Mais à 18h, il était en train de taper sur le gazon, le mec. Ouais, le lundi, ça, le lendemain.
Je pense que
il était en train de taper sur le gazon, le lendemain.
Voir au Queens,
on,
le Queens.
On s'est tous fait la remarque. On s'est dit, mais si c'est nous. Mais là, le Queen, s'il me voit le mercredi 15h, pour jouer 15h30, et lundi, mardi.
Toi.
Mais,
moi. Yannick, il a fait
combien de temps? La fiesta de Noah. Bien sûr, Yannick
Noah. Yannick Noah. Yannick Noah.
Le lendemain. Le lendemain.
Yannick Noah, avec tous les talents qu'il avait, il aurait pas pu faire une plus grande carrière s'il avait sacrifié peut-être un peu plus sa vie.
Bien sûr, oui, sa grande interrogation. Évidemment.
Parce que c'était quand même.
Mais pour revenir sur, on disait, est-ce que tu veux être le GOAT quand t'es petit? Non. Tu sais pas. Tu regardes la réaction de Nadal quand il gagne la première fois Roland-Garros en 2005. Si, dans sa tête, il se dit, attends, mais moi, j'en gagne un, je m'en fous, j'en veux 10 de Roland-Garros. Là, et tu réagis pas comme ça. Parce que sur le coup, tu sais pas si tu vas regagner un autre. Donc là, il est allongé par terre, il est foudroyé par l'émotion, et parce que, bah, il a accompli son rêve d'enfant. Mmh. Il a accompli son rêve d'enfant. Quand il gagne Wimbledon la première fois après ce match de légende contre Federer, c'est la même chose. Il sait pas s'il va regagner. Donc son émotion, elle est magnifique. Alors qu'il est en train d'écrire l'histoire.
Elle est authentique.
Elle est authentique. Ouais. Il est en train d'écrire l'histoire, mais il sait pas où elle va s'écrire, son histoire, où elle va se finir.
Moi, je trouve que ce documentaire lui fait pas forcément de bien à Carlos Alcaraz. Bah, pour l'image
bizarre.
Qu'il renvoie.
Ouais, c'est bizarre.
Non, mais c'est intéressant, non, parce que c'est pas un docu où on dit, ah, t'es le plus beau, t'es le meilleur. Non, c'est intéressant. Il y a beaucoup de réflexions autour de ça.
Et même dans le titre, hein, je le disais, Carlos Alcaraz à ma manière. Tout est dit, mais il a le droit de poser le.
Ce qui est intéressant, c'est que son équipe, Ferrero, qui est son coach, qui dit ça face caméra, c'est rare dans le milieu du tennis, hein, Eric, tu vas me contrôler. Son physiothérapeute qui dit qu'il faut qu'il pense au Carlos Alcaraz de 30 ans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qu'il fait, il faut qu'il pense à son corps dans 8-9 ans.
C'est un électrochoc, hein. S'ils le font, c'est pour qu'il se réveille.
Pense, ouais.
S'ils font ça, exactement. C'est pour qu'il se réveille.
Ouais.
Mais on mesure pas un truc quand même, c'est tout ce qu'il a mis en place avant pour en arriver là aussi. C'est-à-dire que là, on est dans une projection.
Ouais, exactement.
Tu vois, on dit, ouais, il pourrait faire ça, il pourrait faire ça, il pourrait faire ça. De temps en temps, il faut déjà regarder ce qu'il a déjà fait pour être là. Tout le monde peut pas être une machine.
Non. C'était passionnant, en tout cas. J'étais persuadé que vous alliez être Joko, excellent sur ce sujet, sérieux, les copains. Sachez que Roland Garros, on en parle dans quelques jours, quelques semaines, avec Eric Salio, le podcast court numéro 1, podcast de tennis, évidemment, que vous pouvez aller télécharger.
Il y a Rome,
merci beaucoup.
Il y a Rome, Eric. J'y serai. Peut-être que j'attends
une émission. Ah bah oui, évidemment.
L'entrée en ligne de
Yannick
Sinner. Yannick,
tu iras voir le nouveau pop.
Allez, on se retrouve dans quelques instants pour parler de Léon Marchand. Est-ce qu'il peut avoir une longue carrière? Ça va un peu rejoindre notre débat tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
11h33, toujours avec Julien Beneteau, Fred Le Canut, Denis Charvet, Christophe Cessieux. Dans 10 minutes, vous pouvez toujours aller voter sur le compte X des grandes gueules du sport, car ce sera l'heure des GG contre-attaque.
D'ailleurs, ça.
Tu es en train de gagner avec ton Donald Trump et ton Florentino Pérez, qui l'ajoute Trump.
Ça va, vos contre-attaques? Vous voulez qu'on vous mette un petit coup de booster là?
C'est quoi les scores?
Les scores, hein, il me prend au dépourvu comme ça.
Alors,
37% pour Christophe, avec Pérez, le Trump du foot. Il y a 27% pour la VAR qui dénature le jeu.
Merci.
24% pour le palmarès égale l'histoire de l'OM de Julien Beneteau. Et 12%, est-ce qu'on peut comparer Yamal à Messi? Pour Denis Charvet.
Ridicule.
Ça l'arrange, il avait rien bossé.
Allez,
c'était pas difficile.
Tout de suite, Léon Marchand.
RMC, le dossier des GG.
La victoire est dans la poche de Léon Marchand, de ce phénomène, de la natation mondiale, de la natation française, du sport mondial. Léon Marchand, champion olympique, quadruple champion olympique,
600e du record du monde.
Il va passer devant, il va le faire.
Mais oui,
Léon Marchand, champion olympique. Putain, ça va être exceptionnel. Mais qu'est-ce qu'il nous a fait?
Ah, c'est pas Eric Salio, hein. Julien Richard, commentateur.
Ah, les émotions passent, là. Hein.
Extraordinaire. Ah, ouais. Salut, Julien.
Salut, tout le monde.
Merci, je te salue tout de suite, parce que vraiment, ça nous, ça nous rappelle de très bons souvenirs. Un excellent commentateur, et notamment de natation. C'est pour ça que tu es avec nous aujourd'hui. C'était donc le grand retour jeudi à la compétition de Léon Marchand après son escapade australienne. Le quadruple champion olympique est engagé dans 5 courses à Miami, et pour la première fois sur 200 mètres et 400 mètres nage libre. Deux épreuves que le prodige français envisage pour les Jeux Olympiques de Los Angeles. Tout ça pour combattre l'ennui, dit-il. Julien Richard, tu es donc avec nous. Déjà, comment ça se passe pour l'instant, son retour?
Alors, on va dire que c'est un peu mitigé, mais d'abord, faut rappeler quelques éléments de contexte. C'est sa première compétition en grand bassin depuis les Jeux de Paris. Après un début d'année qui a été assez mouvementé, 3 mois passés en Australie, tu l'as dit, de janvier à mars, qui lui ont fait vraiment beaucoup de bien. Il a retrouvé l'envie de nager, l'envie de la compétition, mais il s'est aussi un peu blessé là-bas à une côte. Et il a retrouvé les États-Unis, son nouveau camp de base désormais à Austin, au Texas, et son entraîneur Bob Bowman qui a très peu de temps. Et bon, bah, clairement, il est vraiment pas au meilleur de sa forme. Et c'est un peu normal à ce moment d'année, et donc vu ce contexte.
Lane 7 is a 4-time Olympic gold medalist from Longhorn Aquatics, Léon Marchand.
Et donc depuis 2 jours, bah c'est un peu la curiosité au bord du bassin de Fort Lauderdale avec ces 2 nouvelles épreuves qu'il veut découvrir, qu'il veut intégrer à son programme, le 200 et le 400 mètres libre. Alors le 400 mètres, c'était jeudi, 3e place, un bon chrono, 3 minutes 48 secondes 97 centièmes, mais je vais vous situer tout ça. On est très loin, hein, par exemple, de la meilleure performance mondiale de l'année, qui est tout simplement le record du monde, battu par l'Allemand Lucas Mertens, qui a nagé 9 secondes plus vite que le chrono par exemple de Léon. 9e temps, 9e performeur de l'histoire en France avec ce temps-là. Il n'aurait terminé que 3e par exemple des derniers championnats de France, Léon Marchand. Voilà pour vous situer un peu le chrono. Et cette nuit, ça a été beaucoup plus dur. 8e et dernière place de la finale du 200 mètres nage libre. Il a fait le pop-corn. Léon, il a explosé sur la dernière longueur, clairement. Il a nagé moins vite qu'en série. Et puis derrière, il s'est fait battre à la touche, hein, sur les tout derniers centimètres, sur son épreuve, le 400 mètres 4 nages, dans un chrono qui est très loin de ses standards. Plus de jus, c'est ce qu'il a dit, et ça s'est vu donc. Premier pas sur ces 2 nouvelles épreuves, c'est aussi une nécessité pour Léon Marchand, et c'est ce qu'il nous avait confié avant le début de ce meeting.
Les Jeux à Paris, c'était tellement un objectif énorme pour nous, les athlètes français. C'est pas facile de repartir après sur un autre cycle, quoi. J'ai l'impression que si je refais la même chose, je vais m'ennuyer. En fait, c'est pas le but, et que je vais pas nager plus vite. J'ai besoin de partir sur des nouvelles courses où j'ai aucun repère. 400 crawl, par exemple, j'ai aucun repère. Je sais pas du tout comment on nage à 400 mètres crawl. Tout est nouveau. Et en vrai, c'est trop bien. Ça change. Ça me fait vibrer parce que je sais pas si c'est possible. Mais les premiers 400 mètres crawl, ça va pas être facile, mais ça va être les plus excitants parce que c'est tout nouveau. J'ai besoin de ça pour progresser. J'ai besoin de sortir de ma zone de confort et de faire des choses que j'ai jamais fait auparavant.
Voilà, pour vous donner une petite suite sur sa saison aussi, il y aura l'objectif des championnats du monde. C'est à Singapour, c'est à la fin de l'été. Il y a quelques interrogations, par exemple, sur sa présence aux championnats de France au mois de juin. Et puis, l'objectif à plus long terme, c'est ce qu'a dit Bob Bowman, aussi son entraîneur, c'est ce qu'a dit Léon, ce sont les Jeux à Los Angeles dans 3 ans maintenant. Donc, ça laisse quand même du temps pour progresser sur ces épreuves.
Merci beaucoup, Julien. Tu restes avec nous pour d'autres informations. Si tu veux ajouter quelque chose à notre débat, j'ai envie qu'on se pose cette question. Les GG à 22 ans, est-ce que vous sentez que Léon Marchand va avoir une longue carrière? Vous répondez quoi à cette question, Christophe Cessieux?
Une longue carrière, non. Je pense qu'il n'aura pas une longue carrière.
Ok. Julien Beneteau?
Moi, dans la natation, je ne sais pas trop ce que c'est une longue carrière. Est-ce qu'il sera performant à Los Angeles? Donc, il aura fait 2 Jeux Olympiques vraiment à bloc? Oui. Après, plus loin, je ne sais pas. Mais dans la temporalité de la natation, il y a très peu d'athlètes qui durent 10 ans, 11 ans, 12 ans au plus haut niveau.
Ok, mais comment vous réagissez à ce que vient de nous dire Julien?
On a l'impression que c'est le même combat qu'Alcaraz, quoi, que tout se passe dans la tête, quoi. C'est même pas physique, c'est que parce que physiquement, si tu veux faire tous les sacrifices, tu peux rester au même niveau physique, je le crois. Hein. C'est des athlètes hors normes. Mais après, si la tête ne suit pas, tu peux pas le faire à sa place. Et puis, c'est un sport qui ronge tellement. Quoi. Je ne sais pas, moi je suis comme Julien, je suis partagé, mais je pense qu'après Los Angeles, si en plus il gagne 4-5 médailles, il va arrêter derrière. Ouais. Je vois pas. Après, il n'y a que lui qui pourra le décider, mais c'est tellement un sport de...
Ouais, on ne joue pas à la natation, hein, on fait de la natation. Alors qu'on joue au tennis, hein, la différence, elle est énorme. Et je comprends qu'il
a besoin d'autres défis. Il n'y a pas le côté ludique.
Lui, il a ce truc-là quand même. Il est différent. Léon Marchand, il est bien structuré. Il est réfléchi. Et il le dit, il a besoin de challenge. Et puis là, bon, ses performances, aujourd'hui, c'est anecdotique, entre guillemets, parce que dans une saison d'un nageur, il y a quand même des vraies échéances, des vrais objectifs, avec une préparation spécifique. Mais on verra au championnat du monde cet été.
Ce qu'il faut voir aussi, c'est les jeux. Est-ce qu'il peut faire une longue carrière? La réponse, elle est oui dans l'absolu. Mais il va falloir revenir sur jeux, sur les prochains. Et puis, tu vois, ce qui est quand même intéressant, c'est de voir là par quel prisme il passe pour se remettre dans la flotte, en fait. Parce que je pense qu'il est tellement usé des jeux de Paris, il a tellement fait quelque chose d'incroyable. Et lui aussi, on parlait d'Alcaraz tout à l'heure, il sait tout ce qu'il doit refaire pour revenir à ce niveau-là, que c'est intolérable aujourd'hui. Puis tu sais, il y a un autre sujet aussi, c'est on peut pas être et avoir été. Alors Léon Marchand, il est très très jeune, mais ce qu'il a produit là au jeu, quand là il reprend la natation, il doit être tellement loin de ses standards sur les chronos, sur ses nages, que ça doit être très dur pour lui. Quand t'es très loin de ce que t'as fait de mieux, tu mesures, et donc qui passe par cette forme un peu atypique. Et là, Alcaraz, la grande différence, pour revenir sur le sujet tout à l'heure, c'est que lui, il peut aller sur d'autres nages, reprendre contact avec la piscine,
mais
de d'autres manières.
Hein.
Mais ouais, oui, il est dans l'eau, mais je pense que c'est
toujours
c'est
les mêmes
qui
arrivent autour de la piscine.
Par contre, ce que me disait
Julien, un challenge qu'il maîtrise pas du tout quand même. C'est là où c'est ludique, c'est qu'il se découvre, c'est l'aventure, c'est le western, c'est les cowboys.
Ce que me disais Julien Richard, pas Julien Manotto, tu me disais justement qu'il a fait beaucoup de surf. Donc il a quand même besoin de faire autre chose. Tu sens que le mec, il est...
Et c'est comme il y a un truc comme ça qui fonctionne aussi. Il a toujours fonctionné comme ça, que ce soit depuis les juniors, avec des défis. Enfin, il est obligé de se challenger pour rendre les choses intéressantes et dans sa construction.
On le sent dans sa voix. Oui. Quand il dit le 400 crawl, je sais pas comment on le nage. Le mec, il est champion olympique. Et tu sens que pour lui, c'est excitant d'aller découvrir ça.
C'est pour ça qu'il peut faire une longue carrière. C'est pour ça qu'il peut faire une longue carrière. Parce que s'il est capable de décrocher, raccrocher, raccrocher.
Il fait les 4 nages, il restera quoi?
Non, je te parle pas de changer de nage. Je te dis de récupérer, parce qu'il va pas partir sur les Jeux Olympiques, il va quand même reprendre des disciplines et des choses qu'il maîtrise.
Il va conserver, par exemple, son 400 mètres 4 nages, son 200 mètres 4 nages.
Et cette capacité de raccrocher, décrocher. Tu vois ce que je veux dire? C'est que là, il a décroché de son élément naturel, de son couloir de nage traditionnel, pour y revenir plus tard. Pour y revenir plus tard.
C'est là.
Son couloir de nage, bah évidemment. Julien, on sait qu'il avait avoué, il a failli déjà arrêter une première fois sa carrière.
Ouais.
C'était durant le Covid. Là, on se dit qu'en fait, c'est étonnant pour un sportif aussi talentueux et qui s'est révélé aux yeux du grand public. On sent que ça peut partir d'un coup, en fait. On sent que cette notoriété, que tout ce qui va avec et tout ça, il y a un moment donné, il peut fuir tout ça.
Je t'aurais dit ça, je t'aurais dit oui en fin d'année, mais clairement depuis son séjour en Australie, il a vraiment, il s'est entraîné là-bas. Il n'a pas fait que du surf. Hein, il s'est entraîné avec Dean Boxall, qui est une sorte de Philippe Lucas australien, enfin qui est un grand entraîneur, qui a beaucoup de grands nageurs, notamment en crawl. C'est pour ça qu'il a beaucoup travaillé le crawl. Et vraiment, il a retrouvé l'envie de nager. Après, c'est un garçon qui a aussi d'autres choses dans la tête et dans la vie, qui a d'autres envies que la natation pour plus tard, déjà.
Julien, par le passé, de grands nageurs français ont renoncé très tôt à leur carrière. Je pense à Camille Muffa, Yannick Agnel, qui, une fois qu'ils ont gagné Londres, ont eu vachement de mal à se remettre, même Laure, qui, elle, a connu des moments, on a vu dans son documentaire. Est-ce que tu penses qu'il est dans cet état d'esprit-là?
Il a 4 ans au sommet.
Combien?
Et 4 ans au sommet, alors, Madoudou. Dans le compteur, c'est vraiment à 4 ans. À Lyon jusqu'à Melbourne.
Et ouais, Léon, il en est déjà à 2 ans. Là, c'est la 3e année. Moi, je pense qu'il va aller jusqu'à Los Angeles.
Los Angeles, mais même plus. Parce que, regarde, je vais prendre le parallèle avec un David Douillet, un Teddy Riner, qui ont eu des très très longues carrières. Aujourd'hui, Léon Marchand, il fait ce qu'il veut. Je veux dire, il n'y a pas de concurrence, Léon Marchand. Donc, comme il fait ce qu'il veut, ce que je veux te dire, c'est qu'il est capable aujourd'hui. Attends, juste pour finir, si tu veux bien, c'est que juste pour finir à ce propos-là, c'est qu'il fait ce qu'il veut, et donc du coup, il s'organise comme il veut pour revenir au plus haut niveau qu'il voudra mettre en place. Et donc, du coup, là aujourd'hui, il prend un peu du plaisir sur un côté ludique, mais il s'entretient quand même pour revenir très fort. Et ce laps de temps-là, il n'a pas la concurrence derrière qui l'oblige à revenir dans la piscine plutôt que ce que lui il a envie de faire, parce qu'il est hors du commun. Et donc aujourd'hui, c'est lui le patron. Donc quand il voudra remettre le travail nécessaire pour revenir au très très haut niveau, il pourra le faire par saccade et se contrôler sur les Jeux Olympiques. Donc oui, comme ça, il peut durer longtemps.
Ouais, ouais, mais je sais pas si en natation, tu peux faire des pauses de 6-8 mois régulières comme ils font au judo ou au Teddy.
C'est ce qu'il est en train de faire. C'est une pause qu'il est en train de faire.
Ouais, enfin, il a refait une compète, il s'entraîne. Là, il va y avoir
les autres aussi. Douillet et Riner, ils s'entraînaient aussi. C'est quand même pas de compétition dans le meilleur aspect d'eux-mêmes en confrontation totale.
Riner, il s'arrête jamais.
C'est quand même des distances. Non, mais il s'arrête de combattre. Il s'arrête de combattre. Mais il s'arrête jamais de s'entraîner. C'est la même chose.
Laurent Manoudou, sur 50 mètres d'agibre, il a pu le faire, par exemple.
Il a fait du handball à un moment donné.
Oui, mais c'est du sprint. Là, c'est vraiment des choses complètement
voilà. Après, mais on parle de Léon Marchand.
Tu parles de Léon Marchand. Non, et puis, il ne faut pas croire qu'il a stoppé l'entraînement. Hein. Même quand il a zappé les championnats du monde en petit bassin fin décembre, il avait pris la décision, ouais. Parce que ça, dans la tête, il n'y était pas. Mais il continuait à s'entraîner à Toulouse. Alors, pas forcément aux intensités qu'il peut avoir aux États-Unis avec Bob Bowman, mais il a vraiment continué à vraiment s'entraîner. Sure. À aller deux fois par jour dans l'eau. Et donc, il n'a jamais vraiment stoppé l'entraînement.
Il n'empêche que c'est la première fois depuis que tu nous parles de Léon Marchand. Qu'il gagne pas ces compétitions-là. Hein. C'est la première fois. Depuis que tu m'as fait découvrir ce garçon-là, aux États-Unis, au championnat de France, tout ça, chaque fois il gagnait, il progressait. Là,
sur 400 mètres 4 nages peut-être, effectivement, mais qu'il ne gagne pas sur 200 mètres crawl et sur 400 mètres crawl, c'est absolument logique.
Normal, mais c'est vrai qu'on compare et on comparait avec Nadal, Djoko, les fantastiques pour Alcaraz. Là, quand tu vois Michael Phelps avec 23 médailles d'or...
Ah oui, mais de toute façon, il n'a jamais eu l'envie et l'ambition de battre Michael Phelps au nombre de médailles.
Ça pourrait être comme Alcaraz, mais je pense que comme Alcaraz, il n'a pas du tout envie d'aller chercher de devenir le GOAT. C'est pas son but dans la vie, quoi.
Ok.
Et comme on est on parle de natation, Lormanodou sera dans le Moscato Show lundi.
Voilà, excuse-moi. De 15h à 18h sur RMC, sur RMC Story, c'est important de le préciser.
Voilà, je crois 15h30, il me semble.
Ok, Lormanodou dans le super Moscato Show à partir de lundi, la grande championne de natation. Merci beaucoup.
Julien Richard qui a couru après Lormanodou pendant des années, ça a été terrible.
Elle nous a bien fait voyager.
Merci et à bientôt sur RMC, mon cher Julien. On se retrouve dans quelques instants pour les GG contre-attaque. Je crois que c'est Florentino Pérez. Est-ce que c'est devenu le Donald Trump du foot qu'il a emporté par Christophe Cessieux. À tout de suite.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
Allez, la dernière ligne droite des grandes gueules du sport. Nous sommes ensemble jusqu'à midi. Il est 11h48. Vous écoutez RMC. Merci beaucoup. La musique de la Ligue des Champions, c'est le top alerte. À partir de maintenant, vous avez 5 minutes pour jouer, pour tenter de remporter l'expérience RMC autour de Paris Saint-Germain. Arsenal, demi-finale retour de la Ligue des Champions, c'est mercredi prochain au Parc des Princes. On vous propose de venir assister aux émissions avant la rencontre sur RMC, ensuite direction le stade avec la personne de votre choix, puis vous finissez avec la rencontre de l'after et vous revenez dans les studios RMC. PSG au 7-32-16 dès maintenant, PSG au 7-32-16. Vous avez 5 minutes, bonne chance à tous. Tout de suite les GG. C'est à vous de jouer.
RMC, les GG contre-attaque.
4 propositions de débat. Ce matin, vous avez pu voter sur le compte X des grandes gueules du sport. Chers auditeurs, voici le résultat. Je relève les copies. Alors, comparé Yamal à Messi, c'était la proposition de Denis Charvet, 4e, 12%. Bravo, mon cher Denis.
Pas mal, Denis. Franchement, avec un sujet football comme ça, un mec du Barça, c'est bien.
Okay, ça, 24... J'en préparerais beaucoup mieux.
24% pour Julien Beneteau. Je suis assez surpris. Le double très bon débat.
Je pense que les Marseillais sont
les
réveillés.
125 ans de l'OM.
J'ai envie de t'entendre dire du mal de l'OM, quoi. C'est pas possible.
Son palmarès est-il à la hauteur de l'aura de cette ville, de ce club? C'était la question que tu voulais poser. 27%, la VAR dénature-t-elle le jeu? 27%, deuxième
place. Si j'avais pas été dénigré par Denis, je passais tranquille.
Oui, 37% pour Christophe Cessieux qui s'impose. Florentino Pérez, c'est le Trump du foot. On t'écoute pour ta démonstration.
Certes, il n'a pas la mèche blonde du président américain, ça lui répond tant bien. Il reste courtois dans ses relations humaines et n'insulte pas à tout va. Pourtant, ses prises de position et la politique récente menée par le club dont il est le président font de plus en plus penser au président des États-Unis et donc à Donald Trump. Comparer Pérez au chef d'État américain est sans doute un peu osé. Pourtant, en Espagne, depuis quelques jours, les comparaisons entre les deux présidents ont vu le jour. Pas seulement en Espagne, il y a quelques mois, Mats Hummels, l'ancien international allemand, auteur d'un podcast football très connu Outre-Rhin, avait déploré l'attitude du Real lorsque celui-ci, mauvais joueur, avait décidé de boycotter la cérémonie du Ballon d'Or parce que Vinicius ne l'avait pas emporté. Utiliser les mots manque de respect alors qu'on n'a pas gagné une élection, disait Hummels, ça a des traits légèrement trumpiens. D'autant que depuis ce premier épisode, le Real, son président et ses joueurs ont ajouté un deuxième, puis une troisième couche en se lançant dans cette campagne anti-arbitre qui a abouti aux larmes de l'un d'entre eux la semaine dernière et aux attitudes déplorables des joueurs du Real, dont Rudiger, lors du classique en finale
finale de la Coupe du Roi. Rudiger qui ressemblait plus à un émeutier pro-Trump lançant l'assaut sur le Capitole qu'à un joueur de football lorsqu'il s'est mis à balancer divers objets sur l'arbitre. Alors, la comparaison est sans doute exagérée. Pérez est un chef d'entreprise respecté, un libéral qui est loin d'être aussi fou et dangereux que ne l'est le président américain. Mais il n'empêche, son attitude et celle de ce club dont il a été réélu à la tête l'année dernière surprend et désole le monde du foot. L'institution madrilène pour laquelle le monde entier, supporter comme adversaire, avait jusque-là le plus grand respect, a perdu de sa superbe en même temps qu'une partie de son honneur. Et peu de gens comprennent et admettent ses prises d'opposition complètement hors sol. Alors comment expliquer ses positions? Pérez et le Real sont-ils devenus fous? Tout cela est-il bien réfléchi? Difficile à dire. Fred Hermel, l'ancien correspondant de RMC en Espagne, avec lequel je discutais hier, m'a fait prendre conscience de quelque chose qui nous échappe peut-être de ce côté-ci des Pyrénées, à savoir le statut de ce club qui appartient à ses socios, qui tous les 4 ans votent pour élire leur président. Et du coup, Pérez est comme Trump, obligé de faire plaisir à ses électeurs, de mener une politique parfois populiste pour gagner les suffrages. Or, quand les résultats sportifs sont moins de règles depuis des années, eh bien, on est tenté d'étourdir le peuple en expliquant que l'on est mal aimé, que tous les autres sont des pourris et que c'est à cause de cela qu'on ne gagne plus. Une explication qui vaut ce qu'elle vaut. Mais si la semaine prochaine vous croisez dans les tribunes de Bernabéu un monsieur d'un certain âge portant cravate rouge et mèche blondasse, ne vous méprenez pas, cela ne sera pas Donald, mais Florentino, son double espagnol. Je sens que je vais me faire des amis mis à Madrid, moi.
Bravo. Christophe, c'est sûr, réagissaient les GG après tout ce qui s'est passé autour du Real Madrid. Et c'est vrai que le fait d'élire un président, eh bien, ça peut jouer sur ce genre d'excès. Et on a parlé souvent ces dernières semaines des excès du Real Madrid. Denis Charvet.
Si, je sais pas quoi penser. Effectivement, c'est les attitudes du Real est assez détestable. Après, c'est, je crois pas que Pérez ait fait du mauvais travail depuis 10-15 ans qu'il est là-bas.
Bien sûr, bien sûr.
Il a fait quand même il a gagné quand même quelques titres. Voilà. Donc après, tout n'est pas à jeter. Après, la dernière sortie, oui, elle est désagréable et, oui, elle est détestable, c'est le mot, mais. Mais pour le reste, c'est quand même, ça reste un club que j'aime, un grand club et qui continuera à écrire l'histoire.
Oui, ça, c'est sûr. Mais effectivement, il peut y avoir un sentiment de se sentir un peu.
Oui, mais toujours. Bien sûr,
ouais,
toujours.
Dépendant, puisque tu es élu effectivement par les socios, que tu es à la tête du plus grand club, mais que là, ils ont perdu les pédales. Et lui, il a perdu les pédales. Et quand tu es le président de l'un des plus grands clubs, voire le plus grand club du monde, tu dois avoir une certaine quand même attitude envers tout le monde. Et là, c'est clairement pas le cas.
Ouais, je rejoins tout ce qui a été dit, c'est-à-dire que l'éthique, elle est quand même importante. Tu dois montrer l'exemple, tu dois garder la mesure, tu dois être un petit peu. Enfin, c'est quand même une discipline et un club qui aujourd'hui sont montrés dans le monde entier. Et les attitudes là qu'on a vues dernièrement, notamment sur le terrain. Pour faire un petit passage là-dessus. Enfin, franchement, quand tu veux, je reprends les histoires que tu disais tout à l'heure, que tu sais que j'aime raconter les histoires, notamment aux gamins. Cette transmission-là, elle est fondamentale et donc il faut raison garder. Et là, c'est inquiétant d'avoir des gens qui perdent le contrôle et qui se rendent pas compte du message, du contre-message.
Ils deviennent très parano, quoi. C'est ça qu'il faut garder.
Complotiste
et parano.
Une forme de passion négative. Passion négative. La comparaison, parce qu'aux États-Unis, ils tapent sur les mêmes sujets.
Les mêmes ressorts.
En fait, ils contrôlent quelque chose et le message de l'autre côté, tu vois, il est très puissant et ils se rendent pas compte du mal que ça peut faire, en fait.
En plus,
tu vois, c'est ça qui me fait de la peine.
Complotiste, entre guillemets, tu as raison d'utiliser ce mot, sur des sujets sur lesquels ils ont été relativement avantagés ces dernières années.
Tout le temps.
On parle d'arbitrage. Là.
Ouais, voilà. Donc, ouais, c'est là où c'est.
Mais c'est reconnu, en plus.
Mais c'est là où c'est complètement. Enfin, ils sont. C'est
Fred,
limite de la
Fred
de
m'expliquait aussi que le niveau de l'arbitrage en Espagne paraît-il déplorable. Moi, je sais pas assez de recul pour.
Et que c'est aussi un petit sport national de critiquer les arbitres.
C'est un sport national. Mais là, ils sont allés trop loin. Quand tu montes tu fais des montages vidéo sur la télé du Real pour dénigrer l'arbitre en disant il est nul, il est pourri.
Moi, je dirais corruption.
Mais là, je suis désolé, mais ce qu'a fait l'OM dans le courant de l'hiver, ça ressemble étrangement à ça. Hein, ils ont tout expliqué leur défaite l'arbitrage, quoi, par le mauvais arbitrage.
C'est pas jusqu'à ce point-là, mais oui.
Non, pas jusqu'à ce point-là. Heureusement, ils sont pas jusque-là.
Ouais. Ça marche pas autant pour l'OM. Hein.
Non.
Ça marche pas autant la pression sur les arbitres qu'avec le Real Madrid.
Au contraire, ça a été, je pense, contre eux.
Contre-productif, oui, exactement. Oui. Merci en tout cas, Christophe Cessieux, pour cette
contre-attaque. Bravo, je te félicite.
Oui, voilà. Je suis content d'avoir perdu face à toi.
Si je suis très content. Tu connaissais autant de monde qui votait pour toi. Ouais.
Non, mais lui, il a son réseau, tu sais.
Je veux pas faire le complotiste, mais là, il y a des réseaux qu'on comprend.
Merci les copains, vous savez que je vous aime.
Merci à tous. On se retrouvera demain pour les grandes gueules du sport. Il y aura Pascal Duprat, il y aura Jérôme Pinault, Fred Weiss et évidemment Christophe Cessieux pour de nouveaux débats. On parlera notamment de Marseille-Lille, ou plutôt de Lille-Marseille. Allez, 11h56, on se retrouve dans quelques instants, les paris RMC autour de Strasbourg. PSG, on vous donne les meilleures cotes. Merci de votre fidélité. Salut.